Bonjour à toutes et à tous. Les Journées européennes du patrimoine ouvrent leurs portes le week-end prochain, les 16 et 17 septembre, tant au niveau national que plus largement dans une cinquantaine de pays. Une belle occasion pour les collectivités locales de faire découvrir les richesses de leur territoire. Les thèmes proposés par le ministère de la Culture sont le patrimoine vivant et le patrimoine du sport. Sur la communauté de communes Vallée de l'Hérault, tout un programme est décliné entre visites historiques et guidés dans différents villages, des concerts de musique, des ateliers archéologiques pour les jeunes publics. Évidemment, toujours l'ouverture de l'ancienne abbaye d'Aniane, de la poterie à argileum, et puis le tambourin est également mis à l'honneur en tant que patrimoine immatériel. Pour en parler, nous sommes avec Marie Christiani, chargée de patrimoine archéologique à la CCVH. Bonjour et bienvenue Marie.
Bonjour Marie.
Alors, effectivement, on devait avoir Fabienne Barrère-Elloul qui devait nous accompagner dans cette émission, mais elle s'excuse, qui est directrice de l'Office de tourisme. Donc oui. C'est vrai qu'il y a toute une implication aussi de l'Office du tourisme Saint-Guilhem-le-Désert, Vallée de l'Hérault, qui développe des activités. Mais on va commencer par parler un petit peu de tout le programme des Journées européennes du patrimoine, notamment à l'abbaye d'Aniane.
Oui.
Alors, peut-être nous dire, dans un premier temps, où en est l'abbaye d'Aniane, qu'est-ce qu'il en est des travaux, voilà comment ça avance tout ça.
Oui, alors ça avance plutôt bien. Donc là, normalement, au mois de janvier, des travaux vont démarrer au niveau de l'ancienne chapelle pénitentiaire. Donc pour ceux qui connaissent l'abbaye, c'est quand on est devant la grande cour d'honneur. À droite, il y a donc l'ancienne chapelle qui sert aujourd'hui de salle de spectacle, de séminaire, de réunion, etc. Mais que l'on va donc rénover. On va notamment ouvrir les baies qui avaient été fermées, rénover tous les sols, les peintures murales, les vitraux. Voilà, donc d'ici 2025, on aura une belle salle de spectacle, d'exposition, de séminaire à notre disposition.
Donc il y a déjà tout un chantier qui a commencé depuis un moment déjà et qui a été terminé, toute la partie du coup à droite quand on rentre. Donc tout ça, non, ça avait...
Non, le jardin a été en travaux en 2020-2021. Donc on avait eu quelques travaux de réaménagement paysager du jardin. Mais au niveau de l'abbaye, donc des bâtiments en eux-mêmes, ce sera la première phase du très gros chantier de réhabilitation de ce monument qui va durer probablement des dizaines d'années. Donc là, voilà, une première phase avec cette chapelle pour laquelle donc il y aura aussi attenant un espace d'accueil pour le public, des loges pour les artistes, etc. Donc on accueillera tout le monde dans de bien meilleures conditions.
Et la première phase de travaux, elle va durer combien de temps ?
Un an.
Un an et demi.
Il y a toujours un peu d'aléas dans ce genre de gros travaux. Et dans un second temps, on aura probablement la réhabilitation du cloître. Donc en fait, la mise en sécurité de cet espace, de l'ancien cloître, l'espace extérieur, qui nous permettra d'accueillir du public. Aujourd'hui, en fait, on peut rentrer avec les visites guidées, mais on ne peut pas accueillir du public en stationnaire, on va dire, pour un spectacle, parce qu'on n'est pas donc aux
habilité,
normes. Mais
ouais.
Voilà, l'idée de ces futurs travaux au niveau du cloître sera de réhabiliter tout ça et de mettre en sécurité cet espace.
Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant les Journées européennes du patrimoine, en tout cas à l'abbaye d'Aniane? On vous reçoit régulièrement,
oui,
en tout cas
vrai.
Au micro. C'est vrai qu'il y a les Journées aussi européennes de l'archéologie. Donc, c'est aussi une occasion à chaque fois pour l'abbaye d'Aniane d'ouvrir ses portes, parce que
oui.
C'est pas toujours ouvert, effectivement.
Exactement. Donc, l'abbaye est en friche. C'est pourquoi elle n'est pas ouverte au public tous les jours. C'est pas un lieu qu'on peut visiter quand on le désire, mais on essaie de l'ouvrir un maximum pendant l'année, donc via ces deux événements nationaux, voire européens maintenant, donc les Journées de l'archéologie et les Journées du patrimoine. Donc ça, ce sont des événements qui sont organisés par le service patrimoine de la communauté de communes. Et tout au long de l'année, notamment l'été, il y a des visites guidées qui sont organisées avec le concours de l'Office de tourisme. Voilà. Et donc, ces journées du patrimoine, donc cette année, on a un programme bien fourni, avec notamment trois visites guidées thématiques différentes. Donc, une première visite guidée qui va raconter l'histoire globale de l'abbaye, de sa fondation au Moyen-Âge à nos jours. Donc, ça, c'est pour les novices qui ne sont jamais venus sur le site encore.
Et ensuite, pour celles et ceux qui ont déjà écouté les émissions animées par les podcasts, voilà, vous pouvez retrouver d'ailleurs toute l'histoire de c'est l'abbaye ça. D'Aniane sur RPH,
tout
mais où aller directement à l'abbaye d'Aniane.
Voilà. Oui. Ensuite, pour les personnes un peu plus qui s'y connaissent un peu mieux, on a fait deux visites thématiques, l'une sur vraiment l'histoire de la colonie pénitentiaire, la période du bagne à l'abbaye, et ensuite une seconde sur un thème un peu plus sympa qui est le street art, parce que pour ceux qui sont déjà rentrés dans l'abbaye, il y a beaucoup de graffs et notamment des très belles fresques qui ont été réalisées par un artiste anianais qui s'appelle Jeez, qui est donc malheureusement décédé, et donc deux autres graffeurs. Donc voilà, tout ce patrimoine street art est à découvrir à l'occasion de cette visite pendant les JEP.
Ce qui était illégal devient légitime d'une certaine manière et à valoriser.
Tout à fait. Oui. En fait, on a pris le parti de considérer que cette intrusion, on va dire, de street artistes dans l'abbaye fait partie de l'histoire du lieu, qui est resté à l'abandon pendant longtemps, qui a été visité de multiples reprises par des graffeurs plus ou moins talentueux, vous verrez si vous venez. Mais voilà, on prend le parti de considérer que ça, c'est l'histoire de l'abbaye sur le temps long, de l'époque carolingienne à aujourd'hui. Voilà.
Ouais. Et du coup, ça aura lieu quand ? Donc, tout le week-end, les trois visites guidées ?
Oui.
À quelle heure ? Comment ça se passe ?
Tout le week-end, donc la visite générale de l'abbaye a lieu à 14h30, le samedi et le dimanche. La visite sur le bagne, donc on a nommé « Si tu n'es pas sage, tu iras à Aniane », elle est donnée donc samedi à 15h30 et dimanche à 10h30. Et pour ce qui est de la visite sur le street art, elle aura lieu le samedi et le dimanche à 10h.
À 10h le matin.
Oui.
Et on continue, donc on fait tout un travail aussi avec le jeune public.
Tout à fait.
Des ateliers avec les petits archéologues.
Voilà, donc ça c'est notre atelier un peu phare qu'on fait beaucoup avec les scolaires et aussi avec le public individuel. Donc là, évidemment, je précise que toute la programmation est gratuite pendant les journées européennes du patrimoine. Donc cet atelier petit archéologue, c'est un atelier d'initiation à l'archéologie. On est dans la peau d'un archéologue avec les outils. Et les enfants vont fouiller dans un bac de fouilles pour découvrir des objets qui font référence à la vie des moines pendant le Moyen-Âge. Donc ça, c'est le premier atelier qui concerne le jeune public. Ensuite, on a un nouvel atelier depuis cette année qu'on a testé deux fois déjà, qui est un atelier d'initiation à la photographie, donc petite graine de photographe. Et cet atelier est animé par Gaël Joran du festival Isophoto.
D'accord.
Avec qui nous sommes en partenariat.
Et donc, ils sont amenés à être à l'abbaye d'Aniane ou
Oui.
Et ils vont prendre des photos
Tout
au sein
fait.
De l'abbaye d'Aniane.
C'est un atelier qui fait le lien entre la photographie et l'architecture. Donc, on apprend aux enfants les rudiments de la photographie, comment gérer la lumière, comment gérer le cadrage, etc. Comment fonctionne un appareil photo. Ensuite, ils sont donc avec des appareils photo qui sont fournis, mais ils peuvent aussi amener les leurs s'ils le souhaitent. En déambulation dans l'abbaye, à prendre des photos. Ensuite, on fait un peu d'editing, c'est-à-dire que parmi les 10 photos qu'ils ont prises, ils en choisissent une qu'on imprime sur place sur du papier photo. Et après, il y a un petit atelier d'art plastique et de création d'une œuvre avec des collages. Qui met en scène l'abbaye.
Et on voit aussi le résultat de leur travail endroit en particulier où
alors
c'est pour
l'instant,
eux, après ils repartent avec.
Ils repartent avec. Nous, on prend une photo de toutes les créations et on verra peut-être plus tard, quand on en aura un certain nombre, comment on peut valoriser tout ça. Voilà. Et pour finir, on a un troisième atelier qui, là, est une première. Donc, c'est un nouvel atelier qu'on met en place avec un artiste de La Boissière qui s'appelle Anthony Soulier, qui va nous faire donc un atelier carnet de voyage, aquarelle. Donc, pareil, une nouvelle manière d'aborder le site. Et en fait, tous ces ateliers sont autant de manières de rentrer en contact avec le site de l'abbaye, qui est pas facile à appréhender. Mais donc, par le biais de la photographie, de l'aquarelle, on essaie de donner un nouvel angle de vue sur ce site.
Donc là, c'est pour les petits dessinateurs en herbe.
Alors, c'est à partir de 10 ans, et ça s'adresse aussi au public adulte, bien
sûr. Mais 10 ans et plus, en tout cas pour carnet de voyage aquarelle.
Tout à fait, donc vous repartez avec votre carnet de voyage, vraiment votre carnet d'aquarelle.
Il y aura aussi une conférence aussi à l'abbaye d'Anienne.
Voilà, donc on ne peut pas faire un événement à l'abbaye sans le concours de Laurent Schneider, qui est notre archéologue national. Donc cette année, on a décidé de proposer une conférence sur la thématique des tours et des châteaux du Moyen-Âge en Vallée de l'Hérault, à l'occasion de la sortie d'une publication de la DRAC qui est dédiée à ces tours et châteaux dans l'Hérault. Et il y a plusieurs tours et châteaux en Vallée de l'Hérault, notamment à Montpérou, Homelas, Saint-Guilhem-le-Désert. Donc voilà, on est bien pourvus. Donc on va parler de tout ça avec Laurent.
Donc pendant les journées européennes du patrimoine, donc les 16 et 17, et donc il y aura aussi des visites du Castellas d'Homelas.
Tout à fait. Donc l'association de sauvegarde du Castellas d'Homelas, qui est une association donc à part entière, ouvre le site à Homelas exceptionnellement pour les journées du patrimoine, et donc on a décidé de faire un lien entre la conférence et les visites. Donc pour les amateurs de châteaux forts, etc., le combo parfait, c'est de venir voir la conférence le samedi soir à 17h30 et le lendemain, le dimanche, d'aller visiter le Castellas d'Homelas.
Et donc, on peut le rappeler, Laurent Schneider, c'est quand même un archéologue médiéviste émérite qui est très présent à l'abbaye d'Anienne et qui a beaucoup de savoir sur l'histoire du patrimoine.
Qui est spécialiste de ces périodes où les châteaux forts commencent à émerger dans notre paysage.
Il est assez passionnant à entendre. Oui. Alors, je crois qu'on a fait le tour au niveau de l'abbaye d'Anienne. Oui. On peut parler de poterie avec argiléum. Donc, il y aura une visite du musée, une ouverture du musée.
Oui, une ouverture du musée. Sont organisées des visites commentées d'argiléum. Et également, cette année, il y aura un jeu d'enquête, alors une espèce d'escape game, jeu de piste, qu'on a testé notamment pendant la nuit des musées et un petit peu cet été. Donc voilà, c'est pareil, c'est ouvert au public familial.
Petit jeu d'enquête, pour être un peu
à travers les collections du musée.
Du musée de la poterie. Et puis, il y aura aussi ouverture de l'ancien atelier de poterie, de potier, qui reste toujours ouvert, en fait, cet ancien atelier.
Oui, en fait, l'ancien atelier, c'est le musée, le musée a été créé à l'intérieur de cet ancien atelier du potier Élie Sabadel. Donc, quand on visite Argiléum, on voit des vitrines, un petit peu comme dans un musée, mais on traverse aussi un ancien atelier de potier. Dans le jardin, il y a les bassins de décantation. Le four est encore visible. Donc, tout ça est scénographié, mais
c'est scénographié, des petites figurines. Oui. Il y a des petits personnages qui permettent de retrouver un peu l'histoire.
De raconter l'histoire du lieu. Exactement. Oui.
Et est-ce que ça va être aussi à Argiléum ? Il y aura un événement aussi de commémoration d'André Miquel, qui a écrit, qui était traducteur des Mille et Une Nuits.
Tout à fait. Donc, André Miquel, c'est un universitaire qui était professeur au Collège de France, notamment pendant sa carrière, et qui a vécu pendant un certain temps à Saint-Jean-de-Fosse. Donc André Miquel est décédé en décembre de l'année dernière, et l'association L'Opicard de Saint-Jean-de-Fosse a décidé de rendre hommage à cet illustre personnage de Saint-Jean-de-Fosse à l'occasion donc de la journée du samedi pendant les JEP. Et donc à cette occasion, il y aura des lectures de certains de ses textes, un concert et différentes animations autour d'André Miquel, qui effectivement a traduit Les Mille et Nuits notamment. Il était spécialisé dans la littérature du monde arabe.
Et en parallèle, enfin même, c'est toujours autour de l'association L'Opicard, donc il y a TPVH, le théâtre populaire de la Vallée de l'Hérault, donc qui eux raconteront en fait,
qui vont faire des lectures de textes, tout à fait, etc. dans le jardin d'Argileum,
avec un accompagnement en musique de trio Sol Andante,
c'est ça,
qui est un professeur de l'école de musique intercommunale.
Voilà, c'est un groupe de musique dont fait partie un des professeurs de l'école de musique.
Et donc ça sera aussi dans la journée de samedi.
Dans l'après-midi.
Ouais,
c'est ça.
Donc ouvert dans le jardin d'Argileum.
Tout à fait.
On continue aussi avec la musique. Donc Trio Soldante sera aussi
à Montarnaud.
À Montarnaud, dans différents villages. Ouais.
Voilà, donc à Montarnaud, dimanche 17 à 11h30 à la chapelle. Et également à Saint-André de Sangonis, le dimanche aussi, à 15h30 à la chapelle de Cambousse.
C'est ça. On continue dans les visites guidées qu'organise aussi l'Office de tourisme.
Oui.
Il propose donc des visites guidées avec des guides conférenciers.
C'est ça. Donc l'Office de tourisme, dans sa mission d'animation du territoire, propose différentes visites guidées dans les communes de la CCVH. Donc on a notamment une visite de Puy-Lâché qui sera organisée avec l'ouverture du château de Puy-Lâché. Donc ça, je pense que c'est à ne pas manquer, le samedi et le dimanche à 11h.
Il n'était pas ouvert, en fait, ce château?
Il est rarement ouvert. En fait, le château appartient à un particulier qui a l'habitude de l'ouvrir pour les journées du patrimoine. Mais là, pour la première fois, c'est un guide de l'Office de tourisme qui va animer la visite. Et on a fait un travail conjoint avec l'Office. C'est-à-dire que moi, je suis allée à la DRAC et au service de l'inventaire régional pour essayer de trouver du contenu sur l'histoire de ce château. Donc, chercher un petit peu dans les archives. Et ensuite, j'ai transmis tous ces contenus à l'Office. Et donc, c'est la guide Amandine Amerdeil qui a après forgé sa visite à partir de ses recherches.
Et alors, il date depuis combien de temps, ce château?
Il date bien donc du Moyen-Âge, mais il a été beaucoup remanié, il me semble, au XIVe siècle, puis encore plus tard, à l'époque moderne. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est pas l'archétype du château fort, c'est un château très remanié, mais du coup, il a une histoire assez particulière parce qu'il a été beaucoup retravaillé. Mais il y a toujours une cage d'escalier qui date, elle, du Moyen-Âge, qui est très impressionnante.
Et à qui elle appartenait ?
À voir. À un seigneur local. On a assez peu d'informations, en fait, sur la fondation du château. On sait qu'on a des mentions à certaines époques qui sont assez... on n'a pas beaucoup d'informations. On sait qu'il y a un château à Puy-Lâché, mettons, au XIIe siècle, mais on ne sait pas forcément à quel seigneur il appartient.
Est-ce qu'on a terminé avec les visites guidées qui sont proposées par l'Office de tourisme?
Je peux rapidement citer les villages dans lesquels il y aura des visites guidées. Donc Puy-Lâché, Saint-Guilhem-le-Désert, bien évidemment, Bellarga, Saint-Jean-de-Fosse, donc le village aussi sera à visiter, Montpérou, et voilà, je crois qu'on a fait le tour.
Et alors, en parlant de Saint-Guilhem-le-Désert, on peut rappeler que les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle donc traversent les gorges de l'Hérault, et que les chemins de Compostelle sont sur la liste du patrimoine mondial
de l'UNESCO. C'est
ça. Donc, et ça va être le 25e anniversaire de l'inscription des chemins de Compostelle.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus, voilà, de mettre en avant des chemins de Compostelle?
Oui, le Saint-Guilhem-le-Désert et le Pont du Diable, en fait, sont deux composantes d'un bien classé à l'UNESCO au titre donc des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ce qu'on peut dire sur Saint-Guilhem-le-Désert, c'est que avant même d'être intégré dans ce chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui en fait est un petit peu une reconstruction du 19e siècle, il existait un pèlerinage gélonné, donc spécifique à Saint-Guilhem-le-Désert, et donc on venait voir les reliques du saint, donc de Saint-Guilhem, mais aussi la relique de la vraie croix, parce que on raconte que Charlemagne a fait don d'une relique, donc un petit morceau de la vraie croix du Christ. Alors après, la thématique des reliques, c'est tout un sujet au Moyen-Âge. Mais voilà, en tout cas, c'est ce qui a fait la célébrité de ce monastère. C'est deux types de reliques, donc les reliques du Saint Guilhem et les reliques de la vraie croix. Par exemple, à Agnan, il n'y avait pas de pèlerinage agnanais. Il n'y avait pas de relique de Saint Benoît à Agnan, parce qu'il est mort près d'Aix-la-Chapelle.
Mais il y avait quand même un pèlerinage à l'époque à Agnan, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Voilà.
Pas vraiment, c'était vraiment le pèlerinage de Saint-Guilhem qui était le plus fort. Et après, au fil du temps, on va dire que le tracé de ce pèlerinage de Saint-Guilhem a rejoint un tracé plus large du pèlerinage qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle.
Et l'abbaye de Gélonne, elle se retrouve où ? Est-ce que c'est l'abbaye de Saint-Guilhem, l'abbaye de Gélonne ?
Oui.
C'est la même, en fait.
On peut l'appeler, l'abbaye de Saint-Guilhem-le-Désert, c'est l'abbaye de Gélonne. Le Val de Gélonne, c'est plus la dénomination topographique, le nom du lieu, avant que ça prenne le nom de Saint-Guilhem-le-Désert.
Et est-ce qu'il y aura un événement autour du chemin de Compostelle ?
À Montarnaud aussi, ouais. Je crois qu'il y a il y a une animation autour de la thématique de Saint-Jacques-de-Compostelle. Après, je n'ai pas trop les détails en tête, mais il me semble que c'est la municipalité qui organise un week-end sur le thème Montarnaud, patrimoine vivant, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, pour célébrer donc ce 25e anniversaire, avec plusieurs rendez-vous, notamment le samedi à 9h dans le jardin de la salle des fêtes, avec une randonnée. Et une balade gourmande sur les rives de la Mausson. On aura aussi une intervention donc de TPVH, donc Théâtre Populaire en Vallée de l'Hérault, à 21h avec une pièce de théâtre, Les Cancans. Et le dimanche à 11h30, on retrouve notre trio Sol Andante, on en a déjà parlé.
Ils sont partout, pour les journées européennes du patrimoine, donc à découvrir.
Voilà, et quand même, petite mention spéciale pour le jeu de piste, Les Trésors des Bardots. Donc ça, c'est la mairie qui a commandé un jeu de piste spécifique pour Montarnaud, donc qui se déroulera le dimanche à 14h30.
Super. Dans les autres propositions des Journées européennes du patrimoine, il y aura, on parlait de sport, oui. Thème proposé par le ministère de la Culture pour ces JEP.
C'est ça.
C'est le centenaire du club de tambourin à Vendémiant.
Exactement.
Il y aura un match qui va s'organiser à Vendémiant.
Oui, alors en fait, il y aura un programme sur tout le week-end avec plusieurs matchs, avec notamment des trophées avec des anciens joueurs du club et aussi... La finale, il me semble, la dernière journée de championnat, le dimanche après-midi. Et avec tout ça, donc toutes ces animations, ces matchs, etc., il y aura aussi une exposition en parallèle qui sera ouverte dans la cour de l'école primaire avec des photos anciennes et qui retracera un petit peu toute l'histoire de ce club qui fête ses 100 ans et qui est emblématique de notre territoire.
Qui est emblématique, ouais, de l'Occitanie, hein, le tambourin. Donc,
oui.
Il faut bien le rappeler, ouais. Et puis, enfin, pour finir, clôture du festival de la harpe, d'Occitanie, qui aura lieu à Gignac le samedi à 17h. C'est un petit festival qui est organisé depuis un moment.
Avec un concert à l'église Notre-Dame de Grâce, donc le samedi effectivement à 17h. Et il me semble qu'il y aura aussi quelque chose au domaine de Rieussec avec visite des jardins et dégustation de vin.
Et alors, comme toujours aussi, effectivement, il n'y a pas que les collectivités locales, mais il y a aussi les communes.
Les
communes qui organisent donc des visites historiques, commentées.
C'est ça.
Dans différents villages. Donc, on les a cités,
on a parlé un petit peu de Montarnaud. Je pense que Saint-Guilhem-le-Désert organise aussi... quelque chose, alors je regarde mes petites notes, oui, avec les heures d'orgue et un récital d'orgue donc à l'abbaye de Gélonne le samedi à 20h et un marché aux livres le dimanche sur la place de l'église. On a déjà évoqué donc les visites à Saint-Jean-de-Fosse qui sont organisées par l'office de tourisme, mais il y aura aussi une visite de la chapelle de Saint-Géniès et une conférence de l'historien Richard Bavoilot-Lossade à 18h, donc à Saint-Jean-de-Fosse.
Bon, en tout cas, le programme des Journées européennes du patrimoine qui auront lieu le week-end prochain, le 16 et le 17, est assez riche. Donc, à voir pour plus d'informations sur le site internet
de l'Office de tourisme. Qui recense tout ça. Et d'ailleurs, l'Office de tourisme va sortir une brochure qui résume voilà, tout ce qu'on vous a dit, qui reprend tout l'agenda des activités des journées du patrimoine. Et bien sûr, il y a tout en ligne sur le site internet donc, de l'Office.
De l'Office de Tourisme. Merci Marie Christiani, chargée du patrimoine archéologique de la CCVH. Ben, on vous souhaite un bon week-end, en tout cas, journées au repas du patrimoine.
Ce sera un week-end bien chargé à l'abbaye d'Aniane et partout ailleurs, je crois, là, dans toutes nos communes.
Merci beaucoup, à bientôt.
Merci, à bientôt.